Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Peut contenir des infos, ça commence à l'instant, mes très chers amis. Une explosion du sujet, on va en mettre partout, mais partout, d'un bout à l'autre de l'émission. Mais rassurez-vous, ce n'est pas une explosion qui va faire des blessés. Bien au contraire, ça va même être très enrichissant. Comment vas-tu, Sébastien?
Très bien, et toi, Simon?
Ça va bien, merci. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on va avoir non pas une, mais deux entrevues. Alors, on aura entre autres invité dans le deuxième segment de l'émission, c'est-à-dire dans le deuxième quart d'heure, le rédacteur en chef de Franco-Presse, Julien Caillouette, qui va venir nous parler d'une nouvelle application qu'ils ont lancée pour vous permettre à vous autres, qui êtes un peu partout à travers le pays, qui nous écoutez dans cette émission-ci, d'avoir encore davantage d'informations sur la francophonie canadienne, sur les sujets qui intéressent les gens d'un peu partout au pays. Alors, on va parler de cette application-là tantôt, et puis on va aussi parler des les rendez-vous de la francophonie. Connaissez-vous les rendez-vous de la francophonie?
Oui.
Oui, hein, je pense que la 27e édition de cette année, si je ne me trompe pas, hein, et puis on va recevoir la directrice générale de la Fondation Dialogue. C'est l'organisme qui, d'une année à l'autre, tient justement les rendez-vous de la francophonie. Alors, c'est Madame Asia Bessler qui va être avec nous et elle va être là dans le troisième segment de notre émission. Toi, tu vas avoir des sujets, là, Sébastien. Ou en fait, un sujet.
Oui, le jeu de cartes traditionnel, le fameux jeu de 54 cartes avec les jokers. D'où est-ce que ça vient? Mais qu'est-ce que c'est? Ça me fait penser un peu comme les échecs dont on a déjà parlé, où il y a plein de choses qui datent d'il y a très longtemps. Mais là, ça, c'est pas si loin que ça. Pour le jeu de cartes traditionnel tel qu'on le connaît, on pourra faire le tour de l'historique.
Et c'est pour clore, enfin pour lancer la dernière portion de l'émission. Puis ça risque d'être très intéressant parce que tout le monde connaît ça.
Oui.
Avec les couleurs et tout ça, là, ça va être intéressant. J'ai bien hâte d'entendre ça tantôt parce qu'on en a tous un jeu de cartes à la maison. On sort pas nécessairement tous à la même fréquence. Puis en passant, là, tu as un premier sujet qui va être très intéressant. Commence donc avec ce premier sujet-là, mon ami.
Aujourd'hui, ben oui, si je te disais, là, premier bloc, on va parler d'une grande couronne.
T'es un peu là, couronne, je dirais royauté peut-être, je sais pas.
C'est une question piège. Je vais te parler de la grande couronne qui est le Zodiac, Simon, aujourd'hui.
OK, couronne, Zodiac, OK.
Le Zodiac, la grande couronne. Tu connais les signes astrologiques, là, j'imagine. Et Zodiac, en fait, c'est une grande couronne parce que c'est la zone dans laquelle, à nos yeux, les terriens, les planètes du système solaire font leur fameuse course apparente autour de la planète. La largeur du Zodiac a varié aussi selon le nombre de planètes connues, hein, parce que plus on a des planètes connues qui se distancent, plus ça devient une couronne large dans le ciel. Mais tu regarderas où on voit le soleil passer, là, dans le fond, là, dans la journée. C'est bien sûr parce que la Terre tourne sur elle-même qu'on voit le soleil passer. Mais où est-ce qu'on voit le soleil passer, cette ligne-là? Toutes les planètes passent à peu près dans cette ligne-là. On verra jamais une planète très, très éloignée de ce qu'on appelle l'écliptique, qui est cette ligne-là dans le ciel où passe le soleil. Donc, toutes les planètes sont plus ou moins proches de l'écliptique. Et le terme Zodiac a été attesté en français vers l'année 1230.
OK, ouais, ça date pas d'hier quand même, hein?
Non, le terme vient du latin Zodiacus, qui a été emprunté à l'adjectif grec Zodiacos, qui veut dire cercle de petits animaux. D'après le mot zodion aussi, qui voulait dire figure d'animal. Parce que presque toutes les constellations du Zodiac offrent l'apparence d'animaux, mais à l'exception de la Balance, des Gémeaux, de la Vierge, du Verseau et du Sagittaire. Bon, tu vas dire, ça fait beaucoup, mais bon, la majorité représente des petits animaux.
Oui, c'est vrai, t'as bien raison, hein? Cancer, lion, scorpion, ouais, c'est vrai, absolument, ouais.
Oui, le cancer, c'est le crabe, hein? Ben oui, puis la trajectoire du soleil, donc, comme je te dis, sur la voûte céleste, c'est ce qu'on appelle l'écliptique. Les planètes et la lune s'en écartent pas non plus les planètes, puis l'écliptique traverse 13 constellations dans le ciel, sauf que le Serpentaire fait pas partie du zodiac traditionnel de l'astrologie. Ça, c'est une des constellations qui passe dedans. Quand le soleil traverse un des secteurs d'une constellation, ben on dit que la personne est née sous le signe en question. Ça, c'est pas tout le monde qui le sait, mais le signe qu'on est, notre signe astrologique, c'est le signe qui est derrière le soleil au moment où on est. Donc, on le voit pas dans la nuit, cette constellation-là. Elle est comme là dans le jour, là, parce qu'elle est vraiment derrière le soleil. Donc, quand on est, le signe qui est aligné, c'est notre signe. Puis, le zodiac a été divisé en 12 parties égales en Babylonie au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et c'était une pour chaque mois de l'année. Et on a donné le nom de la constellation la plus proche à chacun des signes. En 419 avant Jésus-Christ, il était différent du zodiaque des Grecs, mais plusieurs signes étaient déjà présents sous le même nom ou presque. C'est comme jumeau est devenu gémeaux, le crabe est devenu cancer, le lion, balance, scorpion, capricorne était là, le géant est devenu Verseau, et le zodiaque actuel a été décrit par Claude Ptolémée au IIe siècle. Alors, c'est ce qu'on a comme belle couronne. Et Claude Ptolémée, lui, il est né vers l'année 100. Il est mort vers l'année 168. C'est un astronome, astrologue, mathématicien, géographe grec. Il a vécu en Alexandrie, en Égypte. Et puis, il est aussi un des précurseurs de la géographie, ce monsieur Ptolémée. Donc, lui, c'est vraiment une figure importante. Et il avait écrit l'Almageste, qui est le seul ouvrage antique qui est complet sur l'astronomie qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Puis le traité de Ptolémée sur l'astrologie, qui est le Tétrabiblos. Le tétra veut dire quatre en grec, donc c'est quatre livres. C'était l'ouvrage astrologique le plus célèbre de l'Antiquité, puis il traite d'astrologie individuelle en quatre livres. Il aide à l'aide de l'emplacement des sept planètes, avec le soleil compris, connu de l'époque. Le soleil n'est pas une planète, mais on l'avait là-dedans. Et Ptolémée disait que l'astrologie est hypothétique à cause de beaucoup de facteurs variables à prendre en compte. La race, le pays, l'éducation qui devait affecter une personne au même titre que la position des planètes dans le ciel au moment de sa naissance. Donc lui, il croyait ça, que ça avait une influence, hein, les fameux astrologues. Et Ptolémée pensait que la Terre était immobile au centre du monde. Et il y a chez Ptolémée aucune confusion entre astronomie et astrologie par contre. Tout ce qui concerne l'astrologie était contenu dans son Tétrabiblios, et pas une ligne sur l'astrologie dans son Almageste, qui est vraiment un traité d'astronomie. Donc lui faisait vraiment une grosse différence entre les deux déjà. Et les constellations présentes dans le zodiaque, bon, on va les nommer, c'est Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, ou Scarabée ou Crabe, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, l'Ophiuchus ou le Serpentaire, qui ne compte pas dans le zodiaque vraiment, mais qu'on traverse, le Sagittaire, le Capricorne ou la Chèvre, le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Alors ça, c'est les signes qu'on a connus. Puis on a longtemps cru que le zodiaque avait été transmis aux peuples orientaux par les Grecs, mais dans une étude récente, 1995, on a montré que le zodiaque mésopotamien a été transmis en araméen et en hébreu directement sans passer par la langue grecque. Et il y en est de même pour le zodiaque égyptien, directement hérité, lui, de Mésopotamie. Puis pendant la campagne d'Égypte qui a été menée par Napoléon Bonaparte, il y a une petite sculpture qui représentait la voûte céleste et les 12 constellations qui a été découverte. Elle ornait le plafond d'une chapelle d'un temple dédié à Hathor et à Isis. Et c'est une des plus anciennes représentations, ça, du zodiaque. Ça témoigne d'une connaissance qui était très précise déjà des mécanismes, des phénomènes célestes, avec des recherches qui ont été menées durant les millénaires par les astronomes égyptiens. Et pour finir, les astrologies chinoises et indiennes qui ont une tradition propre pour désigner les signes, la liste n'a pas de lien avec les signes du zodiaque traditionnel qu'on a, mais c'est ça, c'est cette belle grande couronne, Simon, qui fait le tour, par où le soleil passe, c'est le zodiaque, toutes les constellations de l'astrologie sont là, sur cette ligne.
Ben alors, quand vous verrez quelqu'un qui a l'air perdu dans ses pensées, au lieu de dire « es-tu dans la lune », on pourra dire « es-tu dans ton signe astrologique » ou plutôt « ton signe zodiaque ». Donc, oui. C'est avec ces informations-là de l'ami Sébastien qu'on va filer vers notre deuxième sujet de ce premier bloc. Moi, je vais prendre les prochains instants pour vous mettre en garde.
Oui.
Les gens qui avaient un compte Google, il y en a même quelques-uns là, sur la planète, quand même, des comptes Google, hein, je pense que c'est 2,5 milliards de personnes là, qui ont un compte Google ou à peu près, qui existent, hein, 2,5 milliards de comptes. Il n'y a pas nécessairement 2,5 milliards de personnes qui ont un compte Google, parce que certains en ont peut-être 2-3, ça c'est une autre histoire. Il y a des gens qui ont mis en place une nouvelle arnaque qui vise les comptes Google, et vous savez qu'avec l'intelligence artificielle, hein, j'ai pas besoin de vous apprendre que ça existe, puis c'est de plus en plus présent. Donc, ces arnaqueurs-là utilisent une voix générée par intelligence artificielle pour se faire passer pour le service à la clientèle de Google et tromper leurs victimes. Est-ce que vous avez un compte Google? Ben, ça pourrait apparemment vous préoccuper. Selon un expert en sécurité informatique, et c'est assez bluffant, soit dit en passant, les escrocs ont trouvé une nouvelle technique pour pirater les comptes en ligne. C'est-à-dire que c'est un consultant australien d'informatique qui était lui-même la cible de l'arnaque et qui a sonné l'alarme. Il a reçu une notification d'abord de récupération de son compte Gmail. Là, il s'est dit, OK, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de prendre mon compte. Et à peu près au même instant, très peu de temps après, il y a un appel qui est arrivé et il n'a pas répondu. Donc, l'histoire, en théorie, aurait pu s'arrêter là. Mais à peu près une semaine plus tard, il y a une autre notification qui est arrivée sur son téléphone comme quoi il devait récupérer son compte. Enfin, quelqu'un qui essayait de récupérer son compte. Puis là, il y a eu un autre appel et il a dit, « Bah tiens, je vais répondre. Des fois que... » Et là, il a décroché et la personne avec laquelle il pensait converser avait un accent américain. Donc, il pensait, il dit, « Ben, c'est Google aux États-Unis. » Et la voix se présentait justement comme un préposé du service à la clientèle de Google. Le numéro de téléphone utilisé avait l'air d'être un numéro de Google. L'adresse de courriel dont il a reçu la correspondance avait l'air d'appartenir à Google. Mais quand le gars a investigué un tout petit peu, hein, on rappelle, c'est un expert en informatique quand même, il a fini par se rendre compte qu'il parlait avec une voix qui avait l'air un petit peu saccadée et que les réponses avaient, disons, un certain délai. C'était pas tout à fait fluide. Et là, il s'est rendu compte qu'il était en train de jaser avec une intelligence artificielle. Non, ben, pas de farce, là. Sont rendus là. Ils réussissent à nous bluffer avec des voix artificielles. C'est assez incroyable.
Incroyable.
Ouais, incroyable. Sont rendus qu'ils essaient de récupérer votre compte en se faisant passer pour des entreprises avec des voix synthétisées. Tu vas parler, ils te posent une question, ils te répondent. Là, il y a un petit délai. Tu te dis, ben, c'est peut-être parce qu'il passe par le téléphone Voice IP. Il est à distance sur un interurbain. Mais pendant ce temps-là, ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle reçoit ta réponse et génère une nouvelle phrase qui va justement vous amener dans une conversation. Et comme le dit cet intervenant en informatique, c'est quand même assez bluffant. Je vous donne quelques conseils rapidement avant qu'on termine avec ça. Vous qui êtes des usagers de Google, mais monsieur, madame, tout le monde de façon générale qui avez des comptes en ligne, soyez très vigilants là, si vous recevez un appel qui vous dit bonjour, je vous demande de vous connecter à votre compte, je vais vous envoyer un code, des choses comme celle-là. Ne procédez pas. D'abord parce que Google ne procède pas de cette façon-là. C'est le cas avec bien des banques, hein, on le sait. Méfiez-vous des appels qui proviennent d'un numéro inconnu. Quand vous avez un numéro de téléphone qui vous est inconnu, faites-nous une petite recherche sur Google pour voir si c'est un numéro légitime. Ne divulguez pas d'informations personnelles comme votre nom, par exemple, vos coordonnées bancaires, d'autres informations sensibles. Demandez des détails spécifiques que seulement un vrai représentant pourrait connaître sur l'entreprise ou à tout le moins que l'intelligence artificielle serait obligée de faire de très longues recherches pour être en mesure de trouver ces informations-là. Et si vous avez des doutes, moi, je vais être clair avec vous, là, raccrochez. C'est pas plus compliqué que ça. Contactez directement l'entreprise. Dans ce cas-ci, c'est Google, mais n'importe quelle entreprise qui vous contacterait, votre institution bancaire, par exemple. Et puis, voyez avec un numéro de téléphone vérifié et officiel, si c'est vrai. Et surtout, et là, je vais être là avec cette information-là, quand vous vous apercevez qu'on est en train d'essayer de vous frauder, que ce soit une compagnie de carte de crédit, votre fournisseur d'accès à Internet et tout ça, avisez les autorités, la police par exemple, dites que vous avez été victime d'une tentative de fraude pour que, à ce moment-là, les autorités puissent réagir parce que ça a l'air que ça devient de plus en plus préoccupant là, avec l'intelligence artificielle.
Et je comprends donc.
On s'arrête pour une courte pause et on va revenir dans un tout petit instant avec notre premier invité de l'émission. On va parler avec M. Julien Caillouette. Il est le rédacteur en chef du site Internet, ou enfin de Franco-Presse. Et il va nous parler de la nouvelle application, devrais-je dire, d'information qu'ils ont lancée il y a très peu de temps de cela et qui est disponible à la fois sur Android et sur iOS.
Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
À l'occasion du dernier congrès annuel de Réseau Presse, ou est-ce qu'on dit Réseau Presse ou Réseau.presse?
C'est variable, ça peut être un des deux.
Ça peut être un des deux. Alors, il y a nos collègues des médias écrits, l'équipe de Franco-Presse qui a dévoilé une toute nouvelle application pour les appareils mobiles.
Oui, puis il y en a peut-être qui se demandent qu'est-ce que c'est Franco-Presse. On a entendu parler à plusieurs reprises de Franco-Presse dans l'émission, peut contenir des infos. Et pourquoi une application pour les téléphones mobiles? Alors, c'est le genre de questions auxquelles on va répondre parce qu'on reçoit le rédacteur en chef de Franco-Presse aujourd'hui.
À Absolument, Sébastien. Alors, on reçoit Julien Caillouette. Vous l'avez entendu il y a quelques secondes. Il est le rédacteur en chef de Franco-Presse. Et ils sont dans le même édifice que nous autres. Donc, il est en studio. Il s'est déplacé. Julien, salut.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, très bien. Merci.
Julien, d'abord, pour ceux et celles là, qui ne sont pas nécessairement familiers avec Franco-Presse, c'est quoi Franco-Presse?
Franco-Presse est une entité qui répond à deux besoins. C'est un média national. On couvre la colline parlementaire pour alimenter les médias francophones, les journaux francophones du Canada hors Québec. Donc, on parle surtout des membres de Réseau Presse. Il y a des journaux partout dans toutes les provinces et les territoires qui sont membres, donc qui peuvent reprendre les textes que font Franco-Presse. Nous, on les aide à alimenter leurs journaux et leur site web. On a un site web, on est un média à part entière. Les gens peuvent consulter les articles qu'on écrit aussi.
Donc, grosso modo, on peut dire que c'est comme une agence de presse au service de ces journaux-là, mais en même temps, les gens, monsieur, madame, tout le monde, peuvent consulter ces infos-là. C'est ce qu'on comprend.
Je le mets plus dans l'autre sens. C'est plus un média qui est au service des membres et qui a un service de presse.
Hey, monsieur Caillouette, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à créer une application mobile? Puis pourquoi à ce moment-ci?
Encore là, Franco-Presse et Réseau Presse sont au service de ses membres et l'objectif premier est là. Franco-Presse sert souvent de plateforme pour essayer des choses. Avant, peut-être faire un petit recul en arrière, une petite genèse, avant l'application, il y a eu un site web. Réseau Presse, au cours des dernières années, a développé une plateforme qui s'appelle EvoPresse, qui veut être quelque chose de simple, qui peut être produit et repris par les journaux membres de Réseau Presse. Donc, on a une plateforme simple, on peut mettre de la publicité dessus, donc les journaux peuvent la prendre, mais elle a été développée pour Franco-Presse en premier. Ensuite déployé chez environ 8 autres médias du réseau. Vous savez, comme moi, que Meta a bloqué les publicités, le contenu des médias canadiens sur ses plateformes, sur Facebook et Instagram. Ça l'a beaucoup affecté les membres de Réseau Presse, évidemment. On essaie de contourner les choses autrement. Il y en a qui vont quand même. Il y a les infolettres. Mais on n'avait pas d'application encore. Donc, l'idée flottait avant ça, mais là, le blocage de Meta a un peu donné le coup de barre qu'on avait besoin, a donné une urgence. Donc, on a développé une application un peu sur le même principe qui s'alimente du site web, qui fonctionne assez, qui est assez facile à déployer, à recopier pour les journaux membres. Mais Franco-Presse, encore là, étant le banc d'essai, on était les premiers à l'avoir.
Et c'est quoi le type de contenu là, qu'on va retrouver là-dessus, grosso modo?
C'est vraiment une reproduction du site web, c'est justement pour que ce soit simple à partager avec les membres. L'application est simple. Si vous le voyez, c'est presque comme un navigateur web. Il y a un petit peu plus d'éléments, mais ça va chercher le contenu du site web. Ça le met sur l'application. Vous pouvez accéder aux textes qu'on a, à tous les dossiers qu'on a, toutes les mêmes choses.
Ouais, moi, je l'ai installé sur mon téléphone cellulaire. C'est vraiment très, très facile. Un petit menu hamburger dans le coin en haut, là, pour naviguer à travers les sections. Donc, grosso modo, mais le contenu, là, je veux dire, c'est quoi? C'est des nouvelles qui viennent d'un peu partout? Consommation? Quelles sont les thématiques, là?
On suit beaucoup la francophonie, évidemment, canadienne. Comme je vous disais, on a une journaliste parlementaire, donc il y a des nouvelles politiques, encore là, centrées sur nos dossiers qu'on suit plus, francophonie, immigration, société, santé, ce genre de choses-là. Puis, on touche aussi à l'environnement. Là, on vient d'être nommé un partenaire de Covering Climate Now, qui est une association, un regroupement, je devrais dire, un collectif de journalisme mondial qui essaye de mieux couvrir la crise climatique. Donc, on a des textes sur l'environnement aussi. Une chose que je n'ai pas pensé à dire, l'application, pourquoi aussi c'est important, c'est que tu l'as peut-être remarqué en la voyant, maintenant que tu l'as sur ton téléphone, mais il y a des notifications.
Oui.
Donc, c'est aussi une façon d'attirer un petit peu plus l'attention de signaler aux gens, si vous téléchargez l'application, qu'on est là et qu'il y a une nouvelle qui est rentrée.
Et quels médias puis quels journalistes contribuent à la plateforme et d'où ils viennent?
Notre bureau de Franco-Presse est basé à Ottawa, mais on est un peu partout. Là, on a des journalistes dans d'autres provinces. Là, c'est un bureau, une salle de presse un peu virtuelle, on pourrait dire. Mais je vous disais tantôt que Franco-Presse partage ses textes avec les journaux membres du réseau. L'inverse est vrai aussi. Nous, on fait la promotion du contenu des membres du réseau. Chaque jour, on met au moins un texte de journal membre de Réseau Presse sur le site web. Donc, vous allez l'avoir aussi sur l'application. Donc, il y a ce contenu-là aussi qui peut se retrouver pour les gens qui veulent la lire.
Oui, c'est intéressant. Tu disais tout à l'heure, Julien, que les gens peuvent avoir des notifications, mais je pense qu'on peut s'abonner aussi, si je ne me trompe pas. Il y a un petit bouton, je pense.
Il y a un bouton pour s'abonner, oui. C'est s'abonner à notre infolettre qui existait déjà, mais si vous préférez avoir être notifié avec un courriel, c'est une bonne façon aussi.
Et puis, on sait que c'est difficile de fidéliser les publics en ligne. Alors, comment vous allez faire pour inciter les gens à revenir sur l'application? Et est-ce que vous allez mettre des sondages, des petites chroniques, des caricatures, des choses intéressantes aussi pour retenir les gens?
On a déjà les caricatures de Badeau, oui. le même caricaturiste que Le Droit nous en fait une par semaine, qui est aussi partagée au jour du monde. On a une stratégie de déploiement. Là. Oui, ça a été annoncé aux membres de Réseau Presse pendant le congrès. Et il y a d'autres choses qui s'en viennent pour faire la promotion de la plateforme. Je ne veux pas tout dévoiler d'avance.
Ben non.
Mais c'est démontré les applications... encourage des gens, comme créer une fidélisation déjà. Si vous téléchargez une application, c'est déjà, vous êtes un peu, vous appréciez un peu la marque, donc ça peut être une bonne chose. Si vous appréciez déjà ce qu'on fait, c'est la bonne chose à télécharger. Mais si vous voulez le découvrir aussi, c'est une bonne façon de pas l'oublier avec les notifications.
Et justement, on la télécharge où? Elle est disponible sur quel appareil, cette application-là?
Pour l'instant, on est dans un monde numérique qui fonctionne principalement sur Google et Android et Apple, elle est disponible sur les deux.
Et est-ce qu'il va y avoir une différence entre le site web de FrancoPresse puis l'application? Est-ce qu'il y aura des contenus exclusifs pour l'application ou c'est juste un service complémentaire?
C'est principalement un service complémentaire. Justement, question de simplicité, pour la reproduire, on a voulu... Vraiment, c'est vraiment le site web qui est dans l'application.
C'est juste une façon d'offrir un autre service à des gens. Puis en même temps, tu l'as dit tantôt, Julien, ça les fidélise dans une certaine mesure. Parce que quand on a une application dans son téléphone, on présume que les gens vont être intéressés d'y retourner. Qu'est-ce qu'on voit là comme avenir pour cette application-là? Elle vient à peine d'être lancée, je veux croire, mais est-ce qu'elle est appelée à progresser? Est-ce qu'on a des projets, des ambitions pour ça?
Comme je disais, on est un peu un banc d'essai pour les autres journaux. Donc, on sait déjà qu'il y a deux autres journaux du réseau qui vont avoir l'application bientôt.
OK.
Ensuite, on pourra passer au développement de d'autres fonctionnalités si on veut. Je sais qu'un des deux journaux qui va l'avoir a, comme vous disiez tantôt, il y a un petit menu qu'on peut avoir d'autres options, mais qu'on peut accéder à d'autres options. Mais ce journal-là a plus de choses différentes sur son site web et il veut développer ce menu-là. Donc, il va avoir des choses de développer pour eux qui vont pouvoir être accessibles pour nous et pour les autres journaux. Donc, ça sera à surveiller aussi. Qu'est-ce que nous, on peut faire avec ça?
En bon Canadien-Français, une espèce de joint venture, là, c'est ça. Là.
Exactement, c'est ça l'idée derrière le site et l'application.
Et M. Caillouette, là, jusqu'à présent, est-ce que les réactions sont bonnes de la part du public, des membres, les gens aiment l'application?
Je peux vous donner surtout celle des membres. On n'a pas assez encore d'avoir des réactions du public, mais la plupart des gens qui s'en servent sont très, très satisfaits. C'est simple, ça fonctionne comme un site web, c'est pas sorcier. Puis le matin, surtout pour l'équipe à l'interne, de voir une notification de votre média sur un téléphone pour la première fois, ça fait un petit quelque chose.
Ben, en tout cas, espérons qu'avec l'émission, on peut contenir des infos qui est diffusée d'un bout à l'autre du pays. On va contribuer dans une certaine mesure à populariser ou enfin aider un peu au téléchargement de cette application-là. On rappelle qu'elle est disponible dans le Google Play Store puis dans le App Store d'Apple aussi. Et ça s'appelle FrancoPresse. Hein,
simplement.
FrancoPresse. Allez télécharger ça. Je sais que les gens aiment avoir des nouvelles de chez eux. Hein, on aime s'informer de ce qui se passe chez soi, mais c'est bon, savoir ce qui se passe ailleurs au pays, je pense, ça, c'est un peu l'idée derrière ça aussi.
Oui, c'est l'idée du partage qu'on fait au sein de Réseau Presse. Tous les journaux peuvent s'échanger des textes et partager. Puis parfois, comme vous dites, ça fait du bien de savoir ce qui se passe ailleurs. Ça peut nous donner des bonnes idées.
Oui, la force du nombre. Il s'appelle Julien Caillouette. Il est le rédacteur en chef de FrancoPresse. Il était en studio avec nous. Merci beaucoup, Julien.
Ça m'a fait plaisir. Merci.
Peut contenir des infos. Merci à Julien Caillouette qui était avec nous pour nous parler de cette application mobile disponible maintenant sur Android et sur les appareils iOS, c'est-à-dire iPhone, par exemple, d'Apple. Vous allez retrouver ça dans les boutiques d'applications en ligne. Je pense entre autres au Google Play Store, comme on l'a dit, et le App Store. On vous rappelle que nous autres de l'émission Peut contenir des infos, nous sommes également présents dans l'univers numérique par le biais, entre autres, d'une page Facebook à laquelle vous êtes invités à vous abonner. pour ceux et celles d'entre vous qui êtes sur Facebook. On énonce de temps en temps des sujets à venir. Il y a de petits compléments d'information, des choses comme celle-là. On vous invite également à nous écrire, pour ceux et celles d'entre vous qui êtes intéressés à nous formuler des questions, des commentaires, demandes de précision, des choses comme celle-là. Vous pouvez nous écrire à l'adresse pcdi@radiorfa.com, pcdi comme peut contenir des infos, donc pcdi@radiorfa.com. Et si vous êtes intéressé ou si encore vous avez manqué une émission, ça peut arriver que d'une semaine à l'autre, on n'est pas tout le temps là pour écouter notre émission à la radio, ben, nous sommes disponibles en rattrapage dans l'univers numérique où vous allez pouvoir nous retrouver à deux endroits en particulier. Quoique, il y a d'autres plateformes également sur lesquelles on est disponible. Je pense à YouTube Music, entre autres, avec la balado-diffusion maintenant, TuneIn. Il y a quelques endroits comme ça où on est disponible, mais pour faire la promotion particulièrement de deux plateformes, je vous incite à aller visiter notre site web, le site de l'Alliance des radios communautaires du Canada, le radiorfa.com. Vous descendez sur la page d'accueil et si vous voulez écouter nos stations de radio d'un peu partout au pays, puis écouter notre contenu en rattrapage, il y a aussi notre application, en fait notre site mobile, nosradios.ca, qui est une application web progressive que vous pouvez même, à la rigueur, installer sur votre téléphone pour pouvoir y retourner d'une fois à l'autre. Absolument, absolument, c'est possible. Alors, ça s'appelle Nos Radios et c'est, à juste titre, à l'adresse nosradios.ca. On marque un temps d'arrêt, on revient dans un instant, on parle des rendez-vous de la francophonie. Restez avec nous autres.
Avertissement.
Cette émission peut contenir des infos.
On a dévoilé récemment le thème. On a dévoilé les porte-paroles, les informations des tournées, beaucoup d'autres choses également. Mais monsieur, madame, tout le monde ne le sait pas parce que c'est sorti par voie de communiqué. Et c'est à nous autres de parler, entre autres choses, des rendez-vous de la francophonie.
Oui, puis c'est un événement qui revient pour une 27e édition, Simon, cette année. Ben, l'année prochaine, ce sera du 1er au 31 mars 2025.
Ben oui, on s'y prend à l'avance pour chauffer les troupes un petit peu. On va en discuter avec la directrice générale de la Fondation Dialogue. C'est cet organisme-là qui organise d'une année à l'autre les rendez-vous de la francophonie à travers le pays. Elle est au bout du fil avec nous. Madame Aja Bessler est avec nous. Bonjour, Madame Bessler.
Bonjour.
Madame Bessler, dites-moi, à quoi ça sert, ça, les rendez-vous de la francophonie? Pourquoi ça existe au juste?
Bien, c'est une façon de réunir, de rassembler la francophonie, mais aussi de faire découvrir la francophonie à des nouvelles personnes. Puis je pense que c'est une chance pour notre communauté, d'un bout à l'autre du pays, de célébrer, de découvrir. C'est un événement qui est moins axé sur la revendication, mais plus le positif, puis quelque chose qui nous rappelle tout ce qu'il y a de beau puis d'excellent de la francophonie et de faire découvrir cette francophonie à des nouvelles personnes, donc que ce soit des anglophones ou des apprenants de la langue française ou des nouveaux arrivants, c'est un peu une porte d'entrée vers ce monde de la francophonie puis la culture francophone au Canada.
Et Mme Bessler, il y a un thème différent chaque année, hein? C'est quoi le thème pour la 27e édition et pourriez-vous nous expliquer le choix du thème aussi?
Oui, bien, le défi, c'est de toujours trouver un thème qui est assez large pour être rassembleur et de permettre à plein de gens de se greffer puis d'adhérer à ce thème-là, mais d'assez unique pour donner une saveur différente à chaque édition des rendez-vous de la francophonie. Puis cette année, ça va être la thématique « Cultive tes racines ». Donc, on parle de culture, on parle de racines, non seulement de tes ancêtres, mais aussi de développer des nouvelles racines, de créer des nouveaux réseaux à l'intérieur de ce pays. Donc, c'est cette question de interconnexion qu'on a entre nous, des liens entre les familles, entre les communautés, les générations, puis aussi une petite image de nature qui se trouve là-dedans.
Il y a à chaque année, sauf erreur, un ou même des porte-paroles. Je sais que depuis quelques années, il y a des co-porte-paroles. Qui sont-ils ces co-porte-paroles cette année et pourquoi on les a choisis?
Oui, donc c'est toujours des personnes, on essaie de trouver des personnes qui reflètent différentes facettes de notre francophonie canadienne, mais également qui peuvent faire partie de la programmation des RVF. Donc, on a avec nous cette année Guillaume Bouliane qui vient de la Nouvelle-Écosse. Il est musicien, il est poète. et il va faire partie d'une tournée à l'entour du documentaire Très carré, qui est un film de l'ONF qui parle vraiment de la musique et la culture de la région de Clare en Nouvelle-Écosse. Et Guillaume est dans ce film-là. Donc là, il va pouvoir faire une tournée musicale qui accompagne ce vidéo documentaire qui fait partie de la programmation des RVS. On a aussi lancé un concours de slam poésie qui s'appelle « Il était un poème ». Il y a un volet scolaire, il y a aussi un volet grand public. Puis justement, parce que Guillaume est poète, est écrivain, fait de la poésie, ça se rattache un peu à cet élément-là. C'est quelqu'un aussi qui fait de la formation avec les écoles, puis qui est animateur, puis bien connu dans sa communauté locale. Et Guillaume sera accompagné de Gariana Jean-Louis, qui est comédienne, c'est une humoriste, elle fait du stand-up. C'est la première femme noire diplômée de l'École nationale de l'humour. Et Gariana va faire partie de notre tournée du monde des rendez-vous de la francophonie. Donc, on a annoncé déjà une quinzaine de dates pour des spectacles qui vont faire le tour du pays d'un océan à l'autre. Puis Gariana, en tant que co-porte-parole, va pouvoir nous animer ces tournées du monde et ces spectacles dans les différentes communautés. Donc, deux vraiment belles personnes. Puis les deux sont super motivées puis engagées envers les rendez-vous de la francophonie. Donc, on a très hâte de les faire connaître puis les faire découvrir dans les différentes régions pour ceux qui ne les connaissent pas encore.
Puis les nouveautés, Mme Messler, que vous avez introduites dans la programmation cette année pour les rendez-vous de la francophonie?
C'est certain qu'on a toujours des concours, mais les concours sont différents d'une année à l'autre. Donc, le concours qui est actif tout de suite, c'est « Il était un poème ». Et celui-là, les gens peuvent tout de suite nous envoyer une vidéo d'un slam ou d'un poème. Ils ont jusqu'au 20 décembre pour nous envoyer quelque chose. Puis là, l'idée, c'est qu'à partir du 1er mars, les gens pourront visionner les vidéos des finalistes puis voter pour leur poème préféré. Donc, on est un peu dans le pré-concours, on va dire. Mais il y a aussi plusieurs nouveaux concours qui vont s'offrir à partir du 1er mars. On a aussi un partenariat de longue date avec l'Office national du film qui offre 6 programmes de courts-métrages ou documentaires différents pour groupes d'âge. Puis ces films-là changent d'année en année. Donc, on peut aller sur le site web des RVF tout de suite puis découvrir c'est quoi les films qui sont offerts. On a également une boutique des RVF où on vend différents produits qui célèbrent la francophonie canadienne. Donc là, on en a lancé toutes sortes de nouveaux produits là-dedans, mais on y retrouve, par exemple, des autocollants et des sacs qui mettent en vedette différentes expressions. Donc, pendant l'été, on a demandé les gens de nous envoyer leurs expressions francophones préférées de différentes régions. Une de nos collègues, elle a fait des illustrations originales pour les mettre en vedette. Donc là, exemple, il y a des régions, des expressions peut-être plus qu'on verrait dans les maritimes, « worry pas ta brain » ou « on se verra aux fraises », mais aussi des expressions peut-être plus connues comme « tête de cochon » ou « j'ai de la broue dans le toupette » et tout ça. Donc, on voulait justement créer ce petit moment de dialogue de c'est quoi les expressions qu'on dit par chez nous, puis comment ça différencie d'un bout à l'autre. On a aussi fait des fanions avec tous les drapeaux de la francophonie canadienne. Donc, si les gens cherchent à avoir tous les 11 différents drapeaux de la francophonie canadienne, ils peuvent les acheter sur une corde avec tous les fanions. Puis, on a plein d'autres surprises là-dedans, des choses pour les enfants et tout ça. Oui, puis ça, c'est juste un début, hein, parce que là, les rendez-vous, ça commence le 1er mars. Donc là, on est plus en mode préparation pour les rendez-vous qui s'en viennent bientôt. Donc, on voulait donner la chance aux gens de savoir qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui va arriver dans leur communauté locale. Puis, il y aura d'autres annonces qui vont venir dans les mois à venir jusqu'au 1er mars. Donc, la meilleure façon de savoir qu'est-ce qui se passe, bien, c'est de nous suivre dans les réseaux sociaux, rendez-vous de la francophonie, c'est de regarder le site Internet ou s'abonner à notre infolettre, puis de ne pas manquer les prochaines annonces parce que c'est pas tout ce qui va se passer au mois de mars. C'est juste le début.
Moi, j'aime dire aux gens que les rendez-vous de la francophonie, oui, c'est des activités, par exemple, des visionnements publics, des spectacles, des choses comme celles-là, mais j'aime bien dire aux gens aussi qu'il y a une place très importante dans l'univers numérique depuis quelques années maintenant. Madame Bessler, parlez-nous un peu de tout ce qu'on peut découvrir quand on va sur le site web. Balado, si je ne me trompe pas. Parlez-nous un petit peu de cette composante-là qui rassemble les gens, peu importe où ils soient, dans notre francophonie canadienne et je pense même à travers le monde.
Oui, bien, on veut que le site web reste une ressource, pas juste pendant le mois de mars, mais vraiment pendant toute l'année. Donc, on a des sections de ressources pédagogiques pour des enseignants ou même des parents qui chercheraient des activités à faire avec leurs enfants pour apprendre la francophonie canadienne. On a différentes balados. Il y en a que nous, on a produit, mais aussi on encourage les gens à découvrir d'autres types de balados qui pourraient intéresser les gens. On a des listes de lecture musicales pour faire découvrir la musique d'un peu partout. Des fois, des recommandations de livres, on a des articles. Donc, et même certaines des anciennes activités qui ont déjà fait partie de... Les anciens concours, par exemple, deviennent des ressources à long terme. Donc, les gens qui veulent en apprendre peuvent aller sur le site web. Ça devient un peu un portail sur la francophonie canadienne puis qu'est-ce qui arrive. Puis le site web est disponible aussi en anglais, qui peut un peu sembler comme un contresens de pourquoi on fait un site web des rendez-vous de la francophonie en anglais. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de couples exogames ou de parents qui ne parlent pas français, mais leurs enfants vont à l'école en français, puis ils voudraient peut-être en apprendre plus sur la culture francophone, même s'ils ne sont pas bilingues, ou peut-être sont en train d'apprendre le français, mais ne sont pas pleinement habile dans la langue encore. Donc, on veut donner la chance à ces gens-là qui sont des franco-curieux, pour entendre ça, d'aller en apprendre sur la francophonie, puis de s'intéresser à la francophonie, puis découvrir des choses, puis des artistes, puis de la musique, puis des choses comme ça, même s'ils sont pas pleinement bilingues, puis de savoir que il y a cette francophonie, elle est ouverte sur le monde, puis elle est inclusive, puis on veut la partager avec le plus de gens possible.
Et j'imagine qu'après 26 éditions comme ça, là, il y a des défis. Hein? Vous faites face à des défis comme, par exemple, se renouveler ou comment vous allez faire pour continuer d'intéresser le public?
C'est certain que nous, on passe beaucoup de temps après chaque édition de regarder qu'est-ce qui a fonctionné, d'aller à la rencontre de gens, d'aller les parler puis de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Je pense qu'on a des formules gagnantes, mais c'est rester ouvert sur les rétroactions des gens puis aller faire des consultations. Donc, on fait des sondages au grand public, on fait des consultations, on focus avec des enseignants, on rencontre tous les coordonnateurs des différentes provinces pour savoir qu'est-ce qui a fonctionné chez eux parce qu'on sait ce qui marche dans une province marche peut-être pas dans une autre région. Puis, on essaie tout le temps d'être à l'ouvert de ces rétroactions-là. Puis, on a, par exemple, lancé des micro-subventions pour aider les groupes communautaires de faire des activités en marge des rendez-vous de la francophonie. Ça, ça permet d'activer les rendez-vous sur le terrain par des organismes locaux qui organisent des choses à la saveur de leur communauté locale. Puis ces activités-là changent à chaque année parce que vraiment, ça vient de la communauté elle-même. Donc, je pense qu'il y a ces éléments-là qui permettent de garder de la variété. Puis, c'est vraiment le travail en partenariat. Nous, on est 6 personnes dans l'équipe du bureau de la Fondation Dialogue. Donc, c'est vraiment grâce aux collaborations qu'on fait avec d'autres groupes qu'on reste à l'affût des tendances, qu'on réussit à se renouveler, qu'on réussit à être à l'écoute d'une grande francophonie canadienne qui a beaucoup de différentes réalités.
Ouais, un grand travail de mobilisation en une minute ou peut-être même un peu moins, Mme Bessler, où on peut prendre des informations sur les rendez-vous de la francophonie et cette 27e édition qui s'en vient au mois de mars prochain?
Oui, donc le site Internet, c'est vraiment le portail central de tout ce qui se passe, puis c'est rvf.ca. Sinon, on est actif sur tous les réseaux sociaux, RV Francophonie, ou Rendez-vous de la Francophonie, vous pouvez faire un search, puis nous retrouver. Puis on a un infolettre, si les gens s'abonnent, on promet de pas trop les harceler. On envoie généralement pas plus qu'un message par mois, à moins que c'est le mois de mars.
Oui.
C'est vraiment la meilleure façon de savoir tout ce qui se passe dans votre région.
27e édition, et 27 éditions, pensez-y. Les rendez-vous de la francophonie, elle s'appelle Aja Bessler. Elle est la directrice générale de la Fondation Dialogue qui organise cet événement-là. Madame Bessler, merci beaucoup.
Merci à vous pour l'accueil chaleureux.
Pour rester en contact avec Peu contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel. pcdi@radiorfa.com.
Nous entamons la dernière portion de l'émission et là, je veux vous amener, mesdames, messieurs, pas dans les entrailles de la Terre à proprement parler, mais pas très loin en tout cas, parce qu'il existe, je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, en Asie centrale, au Turkménistan plus précisément, un endroit qui est assez particulier et qu'on appelle littéralement la porte de l'enfer.
Oh.
Ouais, la porte de l'enfer, rien de moins. C'est une formation géologique qui s'enfonce dans les entrailles de la Terre et qui, ironiquement, n'est rien d'autre que les résultats, croyez-le ou non, d'une maladresse humaine, parce que ça arrive évidemment que l'être humain commette des impairs et cette porte de l'enfer qui s'est ouverte, c'est en réalité un cratère qui est creux une trentaine de mètres à peu près, d'un diamètre d'environ 70 mètres et qui brûle sans interruption, êtes-vous bien assis là? Depuis, je vous dirais, près d'un demi-siècle ou à peu près, hein, ce trou-là relâche tous les résidus d'une combustion, dont du CO2 et du gaz méthane. Alors, il y a plusieurs touristes qui se rendent là depuis, sur les lieux, pour assister à un phénomène tout à fait incroyable. Il s'agit même, je vous dirais, d'une des principales attractions touristiques du pays. C'est peut-être même la principale attraction au Turkménistan. Et il faut quand même le dire, hein, je l'ai mentionné d'entrée de jeu, c'est en réalité une vraie catastrophe environnementale. Cette porte de l'enfer, comme on l'appelle. Je vous raconte un peu l'histoire. En 1971, le Turkménistan... Et dans le bloc de l'Est, c'est mené, évidemment, pour ceux et celles d'entre vous qui avaient connu cette époque-là, c'est mené par l'URSS, hein, l'Union des républiques socialistes soviétiques, et la République du Turkménistan voulait exploiter ses ressources gazières, mais ils n'ont pas les ressources à cette époque-là pour sonder nécessairement leur terrain. Alors, ils vont faire appel au service géologique soviétique. Les autres sont comme, hey, nous autres, on est bons, on a l'équipement, on a les experts et tout ça. Alors, ils se rendent là. Et il faut que je vous explique quand même, là, une petite parenthèse, c'est que le Turkménistan, c'est la cinquième plus grande réserve de gaz naturel au monde. Donc, eux autres, ils arrivent là et ils s'en vont se faire du fun, comprends-tu? Ils s'en vont, ils se disent, on va sonder. Les scientifiques soviétiques arrivent dans un petit village qui est à peu près 260 km de l'actuelle capitale à Ashgabat, je pense, si je ne me trompe pas. Et là, ils commencent à creuser pour découvrir du gaz. Puis à un moment donné, ils sont en train de forer. Devine ce qui arrive.
Ça a fait pouf.
Ben oui, ils ont frappé une poche de gaz.
Ah oui.
Hein, ça a carrément provoqué un effondrement de terrain. Ben, pas d'explosion à ce moment-là, mais tout l'équipement de forage a disparu d'un coup. Ça a tout coulé. Tout est tombé dans le trou. 30 mètres de profondeur. Il y a personne, évidemment, qui voulait aller chercher les équipements-là. Mais... fort heureusement, et ça, c'est le beau côté de l'histoire, parce qu'il y en a un, il n'y a personne qui a été tué ou blessé. Mais ça, c'est le beau côté de l'histoire. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais là, il y avait un cratère. Hein? Alors, ça libère du méthane, ça libère du gaz. Ils ont frappé une poche de gaz. Alors, devine ce qu'ils ont fait.
J'ai de la misère à dire.
Ils ont fait des tests. Puis là, les scientifiques ont dit, ouais, ben, il va y avoir de l'empoisonnement. Hein? Donc là, on ne peut pas laisser le gaz s'échapper comme ça. Ça pourrait causer, premièrement, des dangers pour les populations locales, régionales, qui pourraient se faire empoisonner, blesser, peut-être même tuer. Alors là, imaginez-vous, ils ont eu l'excellente idée d'allumer le gaz méthane, là, je suis ironique quand même, pour assécher la poche de gaz en question.
Oh là là!
Ouais, ben là, le problème, c'est que c'est resté allumé sans arrêt depuis tout ce temps-là. Eux autres, ils se sont dit, ben écoute, d'après nous autres, ça va durer quoi, quelques semaines, quelques mois, tout va être brûlé puis ça va être fini, on va se retrouver avec...
C'est une source inépuisable de gaz qui sort de là, c'est ça?
Ouais, ben c'est ça l'affaire, là, c'est que, oui, c'est ça, c'est que le Turkménistan, c'est le cinquième réserve de gaz naturel au monde. Alors, 50 ans depuis, eux autres, ils pensaient que ça allait brûler d'une couple de semaines, mais 50 ans plus tard, lorsqu'on se rend compte, en en 2024, c'est que ça s'est produit en 1971 et la cavité remplie de gaz méthane continue de brûler au Turkménistan. Et quand la nuit tombe, on voit un énorme trou duquel émergent des flammes rouges, rougeoyantes, qui sont alimentées justement, on le dit, par le méthane en combustion. Il y a des tonnes de CO2 qui sont libérées dans l'atmosphère depuis maintenant plus de 50 ans. Et à plusieurs reprises, on a essayé de stopper ce feu-là. En 2022, le président du Turkménistan a réitéré sa demande de faire éteindre les puits. Mais c'est seulement l'an dernier, là, en 2023, que les États-Unis ont dit « Nous autres, là, ça vous tente qu'on aille là et qu'on vous prête assistance, on pourrait vous aider. » Donc, les États-Unis ont proposé en 2023 cette solution-là parce que là, on s'est dit « Faut lutter contre les changements climatiques. Ça ne peut pas brûler de même ad vitam aeternam. » On est en 2024, ils ont proposé ça l'an dernier. La poche de gaz méthane continue de brûler, de libérer des tonnes de CO2. Est-ce qu'on verra un jour ou l'autre la fin de ce brasier? Il y a à peu près juste l'avenir pour nous le dire, mais pour l'heure, ça brûle. Ça brûle, imaginez-vous, sans interruption depuis 50 ans. Tout ça pour une banale erreur, la porte de l'enfer.
Oui, c'est la vraie, ça.
Après, on l'appelle la porte de l'enfer. On se disait, est-ce qu'il y a une porte de l'enfer sur la Terre? Ben c'est celle-là. Hein? C'est la vraie porte. Ben la vraie porte de l'enfer n'est pas vraie, là, mais ça, si vous vous rendez là, vous allez carrément brûler dans les presque enfers de la Terre. Toi, tu vas nous parler, mon cher ami, de quelque chose de quand même un peu plus rigolo, là.
Ben oui, on le disait en début d'émission, le jeu de cartes traditionnel, moi, j'aime ça faire des recherches sur les choses qu'on a un peu tout le monde à la maison, mais on ne sait pas nécessairement d'où ça vient ou on ne connaît pas tout le temps l'histoire. Donc, les recherches étaient très intéressantes et prolifiques. Donc, jeu de cartes traditionnel et le fait que ça a été standardisé et le statut d'objet de consommation courante maintenant, ça peut être utilisé dans plein d'autres buts que le jeu, l'illusionnisme. On sait tous les tours de magie de cartes, ça existe depuis le début des magiciens.
Ouais.
La cartomancie, bien sûr, on a utilisé le jeu de cartes qu'on connaît traditionnel pour la cartomancie, la divination. Faire des châteaux de cartes, ça c'est une des belles applications qu'on a faites avec. Et ça a été utilisé comme de la monnaie. Puis même que les cartes monétaires, ça représente sans doute le type le plus ancien de ce qu'on connaît des cartes. Attesté par un poème de Lu Rong vers 1470 qui avait décrit les cartes à jeu en quatre couleurs, lui, comprenant sapec, ligature, myriade et dizaine de myriades. Ça, c'était comme les quatre signes. Et ce jeu-là avait été enrichi de deux cartes supplémentaires. Ça a longtemps formé la base des jeux chinois. Les deux cartes supplémentaires, on les a encore. C'est vraiment les jokers dans les cartes. Et c'est au début du 17e siècle qu'on a mis sur le marché un jeu qui avait été réduit à 30 cartes. On avait enlevé une des quatre couleurs, tu sais, je te disais les couleurs, puis on avait enlevé la couleur dizaine de myriades. On avait donc gardé sapec, ligature, myriade. Puis, le jeu de 30 cartes a vite été doublé, puis quadruplé. Et au 18e siècle, formé de 120 cartes, ça a été la base du jeu chinois qu'on appelle le mahjong. C'est le jeu que tu retires des petites pièces, deux pareilles, là. Mais l'origine la plus probable du jeu de cartes, ça serait la Chine. On a longtemps pensé que les anciennes cartes à jouer, les plus anciennes, étaient apparues durant la dynastie Tang, de 618 à 907. Mais il y a un article qui est paru en l'an 2000 qui a ruiné les vieilles hypothèses. C'est Andrew Low, un professeur de chinois classique de Londres, il dit que c'est pas avant le 13e siècle que les cartes de papier sont arrivées et elles sont probablement en un développement des dominos qui avait été connu en Chine depuis 1100 environ. Puis il n'y a aucun caractère divinatoire dans les cartes chinoises. Là, par tradition, la Chine même ignorait la cartomancie. Ce n'est pas dans les traditions chinoises. Et vers 1300, les cartes à jouer sont arrivées en Égypte, où là, les marchands latins les découvrent vers le milieu du 14e siècle. Et en Europe, les cartes sont parmi les premiers exemples de xylographie, tu sais, en fait, de faire de l'impression là, en grande quantité. Mais en Chine, la gravure de bois est beaucoup plus ancienne que les cartes à jouer, là, ça, bien sûr. Mais on a commencé par les faire en bois, les premières cartes. Et c'est possible que les précurseurs directs des cartes européennes aient atteint l'Europe par l'intermédiaire des Mamelouks d'Égypte à la fin du 14e siècle, sous une forme très proche du jeu de cartes qu'on connaît aujourd'hui, à ce moment-là. Il y a un ensemble assez bien conservé de 47 cartes à Mamelouk qui a été découvert par Léo Meyer au palais de Topkapi à Istanbul en 1938. Et ces 47 cartes, le jeu n'était pas plus ancien que l'an 1400, mais il a permis d'identifier des fragments de jeu aussi qui étaient datés du 13e siècle. Et puis, le jeu avait quatre couleurs, mais c'était les bâtons, les monnaies, les épées et les coupes. Ça te rappelle sûrement quelque chose? Ça te dit quelque chose, ça?
C'est un peu les symboles qu'on trouve sur les cartes actuelles avec le roi.
Non, le tarot.
Ah, oh, le tarot.
Hey, on va faire un sujet à un moment donné, le tarot de Marseille, Simon, à un moment donné. Je vais te parler de ce jeu-là. Mais pour les honneurs là, du jeu de cartes traditionnel, au départ, il portait les noms de roi, vice-roi, second et assistant. Tu sais qu'aujourd'hui, on a un peu comme le roi, la dame, le valet, là, tout ça. C'est en 1704 que le père jésuite François Ménestrier a considéré que les jeux de cartes représentaient un état politique composé de quatre corps, les ecclésiastiques, qui étaient, d'après toi, quel signe?
Le signe du cœur, probablement.
Oui, parce que c'était les gens de cœur. La noblesse militaire et ses armes, c'était les piques, en fait. Les bourgeois aux maisons pavées comme des carreaux. Et les trèfles revenaient tout simplement aux paysans. À la base, dans cette histoire-là. En France, la grande demande pour le nouveau jeu de hasard qui est sorti les cartes a été satisfaite grâce à la gravure sur bois, un procédé qui a été très innovant, qui a permis de multiplier ça et multiplier les images. Et elles étaient peintes à la main, puis découpées avant d'être recouvertes de savon, passées au lissoir pour faciliter une bonne manipulation du jeu. Et on a vraiment eu ça sur des petites planches de bois. Les quartiers de Lyon présentent leurs cartes avec des caractéristiques propres. Les rois portaient un sceptre à la fleur de lys. Le roi de cœur tenait un perroquet. Le roi de trèfle un globe surmonté d'une croix. Et la dame de carreau, une fleur de tournesol. Le valet de carreau avait une hallebarde, qui est une arme de combat. Là, ça ressemble à une hache, mais longue sur un bâton. Et puis, au 18e siècle et au 19e siècle, Nantes est un centre de fabrication et d'export de cartes à jouer. Il y a plusieurs familles qui s'étaient partagées le marché. On peut citer la famille Rouanet et la famille Mouillet. Mais eux autres, ils ont vraiment rendu ça populaire. Et puis, regarde, pour finir, il y avait différents jeux de cartes. Donc, si on regarde la base, nous, on aurait le jeu de cartes français qu'on connaît avec cœur, carreau, trèfle, pique. Le jeu de cartes allemand, c'était cœur, grelot, gland, feuille. Pour remplacer carreau, trèfle, pique, c'était grelot, gland, feuille. Le jeu de cartes suisse, rose, grelot, gland, bouclier. Mais dans le même ordre, toujours, que je te nomme. Le jeu de cartes espagnol, c'était coupe, or, bâton, épée. Là, ça nous fait penser au tarot. Parce que le jeu de cartes italien, c'est coupe, denier, bâton, épée. Là, c'est vraiment les signes du tarot de Marseille. Il y a juste or pour le jeu de cartes espagnol qui remplaçait denier. Mais ça revient au même. Denier, vraiment tout le temps, richesse, argent, monnaie. Le denier représente ça. Donc, l'or représentait ça du côté des Espagnols. Mais on a vraiment, nous, les signes du jeu français qui sont restés dans notre jeu standard qu'on a un peu partout.
Eh bien, c'est intéressant, cette histoire des cartes, ou en fait, des jeux de cartes traditionnels que tu viens de nous raconter, mon très cher ami. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on ne s'en est pas toujours nécessairement servi simplement pour jouer. Hein?
Oui, la monnaie.
Ouais, la monnaie, entre autres choses. On arrive à la toute fin de cette émission-ci. Ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de passer une excellente semaine, en vous rappelant que vous pouvez nous retrouver d'une semaine à l'autre en rattrapage sur le site Internet de l'Alliance des radios communautaire du Canada, le radio-rfa.com ou encore sur nosradios.ca dans la section balado et que vous allez retrouver là toutes nos émissions antérieures que vous pourrez écouter tant et aussi longtemps que ça vous tente. On se souhaite de passer une bonne semaine.
Un grand merci Simon et merci aux gens qui écoutent. Peut contenir des infos d'un peu partout au pays.
Alors on se retrouve la semaine prochaine. Salut, merci.